L'actualité des idées dans la seconde partie de la Grande Table avec un invité unique, Jérôme Prieur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et cinéaste et vous avez publié une vingtaine d'essais, des textes en prose qui tournent pour l'essentiel autour de la question du passé, de l'histoire, de la littérature et des images. On vous doit aussi de nombreux films documentaires dont la série réalisée avec Gérard Mordillard, L'origine du christianisme, Corpus Christi, l'Apocalypse, Jésus et l'Islam. Une série d'actualités, évidemment, en cette veille de Noël. Vos films explorent aussi la littérature et les arts. Et vous avez reçu en 2014 le prix du documentaire décerné par l'Association française des critiques de cinéma et de télévision. Et si nous vous recevons aujourd'hui, c'est pour une double actualité. Un livre d'abord, La moustache du soldat inconnu, sorti aux éditions du Seuil dans la collection La librairie du 21e siècle, pour achever en quelque sorte cette année, en 2018, consacrée à la commémoration de la fin de la Grande Guerre. Une histoire personnel, intime, par les images et les témoignages rassemblés depuis votre enfance. Mais vous sortez aussi, Jérôme Prieur, un documentaire en deux volets, Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, qui sera diffusé le 15 janvier sur Arte à 22h15, mais qui est déjà disponible en DVD, voilà. Et ce qui réunit ces deux œuvres, comme d'ailleurs l'ensemble de votre travail, c'est d'aller travailler sur l'intime. En cela, vous êtes dans l'air du temps, hein, puisqu'on appelle l'égo-histoire ou la micro-histoire sont des champs importants de l'évolution historiographique. Est-ce que, pour commencer, vous entretenez avec ces deux courants, l'ego, la micro-histoire, vous entretenez une relation particulière, ça vous intéresse? Vous avez l'impression d'avoir été rattrapé par la science ou peut-être d'avoir évolué concomitamment avec l'évolution de l'historiographie?
Ah, comment dire, il y a tellement de choses qui m'intéressent que c'est que ça m'intéresse évidemment, mais j'ai été rattrapé. J'ai fait de la, comme Monsieur Jourdain, j'ai fait de la prose sans le savoir, j'ai fait de l'égo-histoire sans le savoir. Je crois que c'est quelque chose de très profond, de très inscrit en moi depuis longtemps. Et simplement, on se rend compte de ce qui vous appelle, de ce qui vous attire, de ce qui vous anime au fil du temps, d'une certaine façon, petit à petit, en fonction de ces objets de curiosité, de fascination, de ces hantises. Elles sont diverses et puis on se rend compte à un moment donné de sa vie que tout ça forme les pièces d'un puzzle. Et donc je suis très content aujourd'hui que vous m'invitiez évidemment, mais aussi que vous m'invitiez en mettant en relation ces deux objets, un film, un livre, qui ne sont pas directement liés, qui ont une actualité concomitante, puisque le film, je l'ai terminé il y a quelques mois, que ce livre vient de sortir, mais que tous les deux, ils expriment bien, involontairement, d'une certaine façon, enfin, parce que c'est moi, la force d'un rapport au passé, d'un passé qui, pour moi, doit être vivant, et vivant, sinon, il ne m'intéresse pas.
Il y a quand même un point commun, au moins un, entre ce livre et ce documentaire en deux parties. C'est la force du témoignage, le travail du témoignage par le biais de l'archive dans le film, par le biais des textes, des lettres ou autres textes publiés dans le livre, Jérôme Prieur.
Ah oui, oui, bien sûr, il y a des points communs, mais peut-être que le point commun essentiel et qui m'occupe depuis plusieurs années, c'est l'espèce de volonté, de désir irrésistible que j'ai de chercher à entrer dans le passé. C'est-à-dire que pour moi, le passé n'est pas séparé par du présent, par une vitre derrière laquelle on serait à l'abri, comme c'est souvent le cas dans la littérature moins, mais dans les documentaires historiques, on a l'impression qu'on regarde le passé d'un point de vue qui permet de le juger, de savoir comment les autres avant nous ont eu tort, enfin surtout sur le passé le plus récent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le passé nous regarde, comment il nous atteint aujourd'hui. Et c'est ça que j'essaye de faire, je pense, avec des armes différentes, avec des outils différents, dans les livres que j'écris, comme dans les films que je réalise.
Avec une obsession, celle de l'expérience individuelle, qui n'empêche pas, encore une fois, l'approche scientifique, c'est-à-dire exacte des événements et des faits.
Ben, je ne suis pas historien, même si je suis très intéressé depuis de nombreuses années par l'histoire et par les historiens. Mais ce qui m'intéresse, c'est la façon dont l'histoire s'interprète, s'incarne. Et donc, la guerre de 14 a été un sujet personnel pour moi que j'ai essayé de comprendre. Et ce livre, La moustache du soldat inconnu, c'est d'une certaine façon mes souvenirs de la guerre de 14. Je suis né tout de même bien après, vous l'imaginez.
J'allais le signaler à nos auditeurs.
Merci. Et la période de l'Allemagne nazie, et c'est aussi une façon de regarder le passé, mais d'une façon qui échappe à la vision officielle. Et la vision officielle, ce sont les images qui se sont superposées à cette période, à cette époque. On fait comme si il suffisait souvent de réutiliser des images officielles, des images de l'actualité, des images de propagande, et qu'il suffisait de les nettoyer, c'est-à-dire d'enlever la musique, d'enlever le commentaire, de les remonter différemment. Je pense que ces images sont tellement fortes, ont une telle prégnance comme ça sur nous, qu'on ne peut pas y échapper. Et que le meilleur moyen d'y échapper, c'est soit de les critiquer, ce que j'ai fait dans le film qui est aussi présent dans le DVD qui est édité avec Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, dans ce film qui s'appelle Les Jeux d'Hitler, sur les Jeux de 1936, où il y a un chapitre, on dirait, consacré à la critique de Leni Riefenstahl, de la façon dont cette cinéaste allemande, et je le dis carrément, cette cinéaste nazie, même si elle n'a jamais eu sa carte au parti, a modelé notre imaginaire, à modeler notre représentation du passé. Je pense que il faut analyser les procédés de mise en scène, les procédés d'écriture, mais que ce qui est important pour atteindre autre chose de l'ère du temps, il faut se servir, je pense, d'images qui sont à la première personne ou de témoignages qui sont à la première personne. Et donc, dans ce film, j'ai beaucoup utilisé, presque essentiellement, des images de films amateurs.
Et des témoignages comme celui d'Eva Isbard.
Je suis Eva Wiesbard. J'appartiens à une famille de la bourgeoisie juive intellectuelle. Je suis actrice de cinéma. J'avais 25 ans à l'arrivée de Hitler. Avant, je pouvais mener ma vie comme je l'entendais. Pour moi, comme pour tous les Allemands, la liberté était sacro-sainte. C'est là la différence fondamentale entre l'avant et l'après-prise du pouvoir par les nazis. L'individu ne s'appartient plus. Les affaires les plus intimes, intellectuelles, professionnelles, sont désormais toutes soumises au credo et au veto de l'État. Il n'y a plus de portes, plus de serrures. Casseroles, livres et lits sont offerts aux yeux de tous.
Le témoignage d'Eva Wiesbard, extrait de Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, ce documentaire en deux parties, 2 fois 52 minutes, Jérôme Prieur, que vous consacrez à ces années 30, cette montée du nazisme et cette emprise progressive du totalitarisme sur la vie de tous, jusqu'à, comme le dit Eva Wiesbard, mettre la cuisine, les casseroles, les lits dans la rue. C'est une image qui est très très forte. Comment est-ce que vous avez travaillé sur ces témoignages? Je crois que vous avez travaillé à partir de témoignages qui ont été rassemblés par une équipe de professeurs américains à Harvard en 1939, et vous utilisez ce dispositif. Ça commence toujours « Je m'appelle un tel, je viens de là, je suis juive, je suis catholique, je suis protestante ».
J'aime beaucoup cette citation que vous avez choisie de cette actrice qui est partie à Hollywood, mais qui n'a pas spécialement fait carrière là-bas. Mais elle résume en une phrase ce que les nazis ont fait à la vie privée, à la vie quotidienne. Et donc je trouve ça magnifique, comme ça, quand on précipite en quelques mots tout ce qui se passe. Je travaillais de loin sur un projet autour de la Nuit de Cristal, cette horrible nuit de pogrom en Allemagne en novembre 1938. Et quand je me suis rendu compte que les témoignages que je lisais étaient issus d'une grande enquête lancée par l'université de Harvard par 3 professeurs à l'été 1939. Tout ça est important. Pourquoi Harvard ? Parce que Harvard voulait réagir contre une enquête parallèle qui avait été faite par l'université de Columbia à New York, donc l'université rivale, on pourrait dire. Et cette enquête, cette autre enquête, était sur le thème « Comment devient-on national-socialiste ?» Et donc c'est une enquête qui, évidemment, a eu tous les appuis officiels du Reich, comme on peut l'imaginer. Or là, la volonté de ces trois professeurs, et surtout de l'un d'entre eux, Edward Hirschhorn, est de témoigner, de lancer, d'être un peu, de lancer l'alerte aux États-Unis et de dire le national-socialisme n'est pas du tout ce régime d'ordre et de prospérité que l'on nous fait croire. C'est un régime qui persécute, qui humilie, qui oblige beaucoup d'Allemands à quitter leur pays, qu'ils soient juifs, mais aussi, vous l'avez rappelé, qu'ils soient opposants politiques, qu'ils soient catholiques, protestants, etc., etc. Et donc, ce concours est lancé, mais c'est une enquête sous forme de concours, c'est-à-dire qu'il y a des gagnants, il y en a qui gagnent des sommes d'argent qui permettent de vivre plusieurs mois, et qui s'adressent à des exilés allemands qui sont aux quatre coins du monde. Il y en a qui sont aux États-Unis, évidemment, mais il y en a qui sont en France, qui est une mauvaise idée si on est juif, de partir en France, mais il y en a qui sont en Suisse, en Grande-Bretagne, au Japon même, etc., etc. Et chacun de ces témoins ne répond pas comme, enfin on peut imaginer une enquête, on se dit s'il y a quelques questions, non. Chacun est sommé d'écrire une autobiographie, chaque personne qui veut participer à cette enquête doit écrire un récit à la première personne dont le sujet, l'intitulé, c'est « ma vie en Allemagne avant et après le 30 janvier 33 ». Il en résulte
qui est la date, évidemment, 200, d'accession d'Hitler au poste de chancelier.
Qui est la date à laquelle Hindenburg appelle Hitler tout à fait légalement. Il y a 281 réponses, mais ces réponses sont des récits qui font 50, 100, 200, 300 pages chacun. Récits qui sont dactylographiés, quelques-uns manuscrits, pour la plupart écrits en allemand, certains écrits en anglais, mais c'est un matériau considérable. Et surtout, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que ce matériau considérable d'histoire à la première personne, d'égo-histoire avant l'heure, est resté quasiment inédit. C'est-à-dire que il y a eu deux ou trois textes qui ont été publiés aux États-Unis sous d'autres noms, un peu rewrités pour le coup, avant l'entrée des États-Unis en guerre. Et sinon, grosso modo, il a fallu attendre les années 90-2000 à la fois aux États-Unis et en Allemagne pour que certains de ces textes, mais moins d'une dizaine, soient publiés. Et il existe seulement un texte issu de cette enquête qui est paru en français. C'est un texte du philosophe Karl Levitt, qui est la seule traduction française d'un des textes issus de ce gisement incroyable.
Et ce travail sur les textes, vous l'appuyez, vous avez commencé à en parler un petit peu, Jérôme Prieur, sur un travail sur des archives personnelles, des images inédites, des films amateurs sur cette réalité que vivent les Allemands. Ça commence, le tout premier film commence par des images dans un train, des images de fêtes foraines, et au fur et à mesure, on voit de plus en plus, évidemment, les défilés des SA dans les rues des villes allemandes, les autodafés et tout ce qui s'ensuit. Et il y a un côté un peu glaçant, parce qu'on a l'impression de voir des images familiales, parfois même des images de vacances, et on se demande, enfin je veux dire, la prise de vue est faite comme si on filmait un film de vacances, et on se demande si l'opérateur de cette prise de vue a conscience de ce qu'il filme. C'est-à-dire, est-ce qu'il a conscience de vivre un événement historique, des événements historiques, ou est-ce qu'il filme tout simplement pour faire témoignage?
Il y a deux choses dans le film. Il y a la voix, ces voix que j'ai retrouvées, évidemment, elles n'ont pas été enregistrées sur des bandes magnétiques, mais elles sont restées à l'état de mots écrits sur des feuilles de papier.
Lu par Rutelumper.
Parce que je trouve, j'ai entendu la version allemande qui malheureusement sera montrée aux spectateurs allemands d'Arte par une autre comédienne qui est une comédienne de renom, mais qui n'a pas le talent, l'incarnation, le sens du rythme, de la dynamique des personnages qu'a Rutelumper, la célèbre chanteuse et actrice berlinoise qui vit aux États-Unis maintenant. Et donc, il tient tous les rôles, voilà. Mais donc, il y a ces voix, il y a ces textes, mais il y a ces images aussi auxquelles vous faites allusion et qui ne viennent pas des mêmes auteurs. J'ai eu l'idée, le parti pris, je dirais plutôt, d'essayer de retrouver en Allemagne essentiellement ce que des amateurs, d'autres amateurs évidemment, d'autres Allemands, d'autres témoins avaient filmé. Et ça nous donne à voir en effet un pays tout à fait inconnu qui ne ressemble pas vraiment au cinéma de propagande, au cinéma officiel, et qui nous montre la joie. Enfin, il faut oser voir ça, la joie, mais aussi la gêne, l'embarras, la peur, la lâcheté, enfin, toutes choses qu'on ne voit pas forcément dans les actualités officielles. Et je trouve que là, on atteint quelque chose de l'époque qui est irremplaçable.
Cette force évocatrice des images, Jérôme Prieur, rappelons-le que nous parlons d'un film, nous parlons aussi de votre livre, hein, La moustache du soldat inconnu. Elle est présente hein, notamment à travers un épisode où vous racontez être tombé il y a très longtemps dans Paris Match sur une photo de Poilu en train de casser la croûte, de déjeuner. Et il déjeunait sur des cercueils. Une image qui vous a hanté très longtemps et à laquelle vous êtes revenu à l'occasion de ce livre.
Oui, ce livre, c'est un livre que j'ai commencé à écrire, pas sous cette forme, mais à 10-12 ans. Enfin, je voulais écrire à cette époque une vie quotidienne des poilus. Il n'en existait pas et je sentais que c'était le point obscur de cette grande guerre, la petite histoire de la grande guerre, comme vous avez eu la bonne idée d'intituler cette émission. Et puis voilà, ça ne m'a pas lâché. Heureusement, une histoire, une vie quotidienne des poilus est parue, dans laquelle je n'étais absolument pour rien. Mais ça ne m'a pas lâché. Et puis un beau jour, l'occasion m'a été donnée d'écrire un texte à partir de cette photo qui m'est restée en travers des yeux. Et le rêve, le texte est paru, mais ma recherche ne s'est pas arrêtée. J'avais le rêve, le projet, cette photo à laquelle vous faites allusion, il y a 12 soldats, 13 soldats qui sont dans une clairière, il y a encore de la végétation. Ils ont des képis, ils n'ont pas de casque, donc on est encore en 1915. Et donc j'avais l'envie d'identifier chacun de ces soldats. Et puis je n'y suis pas arrivé parce que il me manquait des informations, je ne savais pas à quel régiment ils appartenaient, etc., etc. Voilà. Puis les années passent et puis je tombe sur une autre suite d'images, un autre film amateur, je dirais, qui est tourné, lui, à peu près à la même époque, en 1915, par un nommé, on sait au moins son auteur, on sait qu'il s'appelle Albert Gall Ladevèze, on sait qu'il est mort dans un accident d'avion en 1916, et ce que je n'ai pas réussi à faire avec cette photographie, c'est-à-dire de tout retrouver, de donner corps à tous ces soldats inconnus, la moustache du soldat inconnu, c'est parce que tous les soldats de la guerre de 14 sont quasiment, à part quelques héros, sont des inconnus, sont des soldats invisibles, qui ont tous une moustache.
J'allais vous le dire, qui sont quasiment tous moustachus, comme vos grands-pères d'ailleurs, qui sont aussi à l'origine de cet intérêt pour la Grande Guerre, pour la Première Guerre mondiale. C'est une histoire qui s'ancre dans votre obsession, hein, d'autres obsessions, oui. Aussi de collectionneur, oui. Collectionneur d'objets de la Première Guerre mondiale, et oui. Dans une histoire familiale,
oui.
Jérôme Prieur.
Oui. Enfin, collectionneur, pas tellement. Il y a un grand collectionneur que j'ai rencontré depuis, qui est Jean-Pierre Vernet, qui est à l'origine du musée de la Grande Guerre à Meaux. Mais j'ai plutôt ramassé comme un archéologue, j'ai ramassé des débris, des vestiges. Mais parmi les débris, les vestiges que j'ai ramassé beaucoup de photographies et des plaques stéréoscopiques qui me donnent toujours l'impression de basculer dans le temps, de basculer dans le temps passé. Et c'est à la recherche de ces fantômes, de ces revenants, que je suis parti dans ce livre.
C'est aussi une façon de ne pas re-raconter des histoires, que ce soit celles de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, des histoires qu'on a beaucoup entendu pour beaucoup souvent voilà sont des éléments évidemment des événements importants de l'histoire mondiale et vous par le témoignage en étant à hauteur de Poilu ou à hauteur de celles et ceux qui ont dû fuir l'Allemagne nazie vous éclairez la chose de façon un peu différente.
Oui parce qu'on l'éclaire de façon très centrée, très localisée à un moment donné. On capte, on saisit, enfin j'essaye d'être dans cet état d'immersion totale dans les images, ou dans les, que ce soit dans le livre ou dans le film. On est en état d'immersion et cet état d'immersion, ça produit un sentiment paradoxal, je crois, qui est à la fois de sidération. On est sidéré que d'autres êtres humains aient pu vivre des choses pareilles. Et on est en même temps dans un état de critique, de sidération critique, quand même ça. On essaye de comprendre. Enfin, on est dans ce double regard qui me fait travailler, qui me fait chercher.
Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
Er hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag. Liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mäcki-Messer, dem man nicht beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit einem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mäcki-Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in so.
Die Moritat von Mäcki-Messer, la complainte de Mäcki-Messer, extrait de l'opéra de Katsu, chanté ici par Ute Lemper, qui est, Jérôme Prieur, la narratrice de votre documentaire « Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler ». C'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui à la Grande Table, également pour votre ouvrage « La moustache du soldat inconnu », sorti à la librairie du 21e siècle, la collection, prestigieuse collection des éditions du Seuil. Et si on a extrait, évidemment, cette opéra de Katsu de Bertolt Brecht et Kurt Weill, si on a pris cet extrait, c'est pas seulement parce qu'il est chanté par Ute Lemper, c'est aussi parce que c'est un moment artistique important de ce tournant des années 20, des années 30, cette Allemagne qui a été un foyer de création artistique, de réflexion intellectuelle et qui bascule peu à peu dans ce totalitarisme que vous décrivez.
C'est un moment d'effervescence, d'ébriété. C'est un moment à la fois de crise économique, de crise culturelle, mais c'est aussi un moment foisonnant pour les arts, pour la peinture, pour la musique, pour le théâtre et pour le cinéma. Ça a donné quelques monuments de l'histoire du cinéma avant que les nazis n'arrivent et ne salopent tout, évidemment.
Alors, il y a dans votre documentaire cette référence, cette référence artistique, à cette effervescence artistique. Je l'ai dit, il y a aussi la force du témoignage, du regard sur cette période. Et toute proportion gardée, on est frappé par certains parallélismes. On fait souvent le parallèle entre notre époque et celle des années 30. Ce matin, au micro de Guillaume Herner, l'historien Patrice Guénifé a bien pris garde de dire à quel point nous sommes dans des époques différentes. Mais dans les témoignages tels que vous les livrez, Jérôme Prieur, il y a cette idée, par exemple, de donner sa chance au nazisme, il va se planter, Hitler, parce que de toute façon il est idiot, il va se planter, donc donnons-lui sa chance. Il y a, on retrouve un petit peu des notions comme ça qui peuvent, comment dire, irriguer le débat public aujourd'hui.
Oui, c'est ça qui est un peu effrayant quand on travaille sur le passé, c'est toujours de se rendre compte que le passé est brûlant. Enfin, j'avais l'impression, avec ce film, quelques autres avant, de chercher à ne pas avoir froid dans le dos. Et puis, on se rend compte que c'est pas uniquement dans le dos qu'on a froid, c'est aussi dans ce qui est en face de nous, dans les yeux. Alors évidemment, il s'agit pas de la même chose, il s'agit pas de comparer ce qui est incomparable, il s'agit pas de mélanger des régimes politiques qui sont pas forcément aussi dictatoriaux que a pu l'être le nazisme, qui a tout pris en main, mais ce qui fait froid dans le dos, et plus que froid dans le dos, notre manière d'échapper à l'humanité, et aussi ce sont nos lâchetés, nos peurs, notre goût, enfin je dis nous parce que on peut pas s'exempter de ça, notre penchant à la servitude volontaire, à l'acceptation. Et c'est ça que l'on voit comme dans un laboratoire. On voit des gens qui sont des résistants, d'une certaine façon, de la première heure. Des gens, enfin, ils sont forcés d'être résistants, mais ils ont décidé de quitter leur pays, ce qui n'est pas rien. On a toujours envie, j'en fais état dans le film, à travers des témoignages, on a toujours envie de se dire « Bon, c'est terrible, mais... ça peut pas être pire. » Et puis finalement, c'est pire. Et à force de descendre les marches, on accepte l'inacceptable. Et ça nous renvoie à des événements, à des situations actuelles.
Mais alors justement, précisément, ce qui est fort dans votre documentaire, Jérôme Prieur, Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, qui s'attache donc aux témoignages individuels, c'est qu'il n'y a pas... Il y a des événements, évidemment, il y a, comme vous l'avez rappelé, la prise de pouvoir d'Hitler, il y a la nuit de Christelle, il y a des événements qui apparaissent dans le quotidien des témoins que vous citez. La nouvelle de la nomination d'Hitler, c'est racontée par quelqu'un qui sort du cinéma, voilà, qui voit là l'incendie du Reichstag qui a été imputé aux communistes, on l'apprend chez le laitier ou par la concierge, et c'est une façon de dire aussi ça peut glisser, c'est-à-dire ça glisse doucement, c'est pas juste des événements, c'est aussi quelque chose qui s'immisce dans la vie quotidienne.
Oui, c'est peu à peu, puis à un moment donné c'est irrattrapable, c'est irrémédiable. Mais vous rappeliez à l'instant que on a pu se dire que ben Hitler, on pouvait essayer, il ferait la preuve de son incompétence, ou que de toute façon il y a eu tellement de gouvernements qui sont succédés en Allemagne, pourquoi pas aider celui-là, ou que ben ce sera le meilleur moyen de s'en débarrasser, puisque il y a même un des personnages qui raconte que il est au courant de la situation et que le leader du parti du centre catholique, du Zentrum, est déjà prêt à prendre le poste de chancelier du Reich, alors que tous les partis de gauche, du centre, de droite vont être éliminés dans les premiers mois de l'arrivée au pouvoir des nazis. Enfin, tout ça, ça fait réfléchir. Et tout ça, ça nous montre que l'histoire, elle est pas loin, elle est pas de l'autre côté, que les nazis, ce ne sont pas les monstres que on pourrait volontiers nous présenter, que quelque chose là est au-dedans de nous-mêmes dont il faut se méfier, enfin au-dedans des démocraties dans lesquelles nous vivons.
Là aussi, un rapprochement peut être fait avec 1914, cette fois-ci, oui. Avec 14-18, c'est la question de l'image qu'on a de l'événement, de la période historique dans laquelle on est, l'image qu'on se construit de soi à ce moment-là. Vous citez l'historien Jules Isaac, qui est l'auteur du Malais Isaac, pour ceux qui s'en souviennent, et qui écrit, je crois que c'est à sa femme ou à sa petite amie, je sais plus, qui lui écrit « Les journaux racontent le roman de la guerre, pas l'histoire vraie ».
Ah ça revient tout le temps dans les propos des poilus. Enfin lui, il le dit très très bien, mais que ce que vivent ces hommes est inimaginable et donc irracontable. Et donc c'est ça qui m'a finalement poussé à écrire ce livre. C'est comment est-ce qu'on peut raconter ce qui est irracontable? Comment est-ce qu'on peut raconter ce qui est tombé dans le silence? Vous savez, c'est le fameux silence du permissionnaire que Jean Paulhan a un peu théorisé, mais avant lui, Walter Benjamin avait parlé de ça. Ça a frappé beaucoup les contemporains, le fait que les poilus, les soldats allemands aussi, moi je parle plutôt des soldats français, mais que les soldats allemands comme les soldats français ont vécu des expériences tellement inimaginables, tellement hors du commun, qu'ils ne pouvaient pas les raconter. Et ce qui est touchant, bouleversant, c'est de voir comment quelqu'un comme Gal Ladevez, ce cinéaste inconnu, ce cinéaste anonyme, on pourrait dire presque, essaye de raconter, de dire à la postérité, voilà comment c'était, voilà comment on peut représenter ce qui est foncièrement indicible, irreprésentable, invisible, immontrable.
Et tout ça transparaît notamment dans les lettres des poilus. On en a choisi une, un peu au hasard, mais pas tant que ça, vous allez voir. C'est celle d'Étienne Tantiste en 1915.
Jeudi 28 janvier 1915. Gère, toujours aussi incapable d'écrire. J'ai eu hier matin votre lettre du 23 J'ai mis une enveloppe hier soir. Il gèle épouvantablement ce matin, sans que j'arrive à me réchauffer les doigts. S'il n'y avait encore que les doigts de gelée. Mais le bonhomme ne vaut guère mieux, et le cafard est pire que la gelée. Car n'est-ce pas, j'ai le cafard, vous vous en doutez, et je désespère de le chasser. Il y a de quoi, et ce n'est pas aujourd'hui qu'il passera. La perspective de retourner ce soir dans le vieux secteur du Bois Carré et de reprendre la vie souterraine, nocturne et marécageuse n'étant pas pour le dissiper. Voilà 6 mois bientôt que ça dure. 6 mois. Une demi-année qu'on traîne entre vie et mort, jour et nuit, cette misérable existence qui n'a plus rien d'humain. 6 mois. Il n'y a encore rien de fait, aucun espoir. 6 mois qu'on a quitté le fort, et l'on est un peu moins avancé qu'au lendemain du Châtelet. Tout est à recommencer. Tout cela n'a été qu'un prélude. Nous n'en sommes donc encore qu'au prologue de la tragédie, dont le premier acte commencera au printemps. Hier, ou avant-hier, au rapport, on a lu des lettres de prisonniers Bosch. Pourquoi ? Je n'en sais rien, car elles sont les mêmes que les nôtres. La misère, le désespoir de la paix, la monstrueuse stupidité de toutes ces choses. Ces malheureux sont comme nous, les Bosch. Ils sont comme nous, et le malheur est pareil pour tous. Je vous embrasse, Étienne.
Une lettre de Poilu qui date de 1915, celle d'Étienne Tanty. On entend à la fin, finalement, un peu de ce que vous disiez, Jérôme Prieur, sur la similarité des expériences côté allemand, côté français. Mais ça commence par l'incapacité d'écrire, l'incapacité de dire. Et pourtant, ça enchaîne sur toute une lettre qui est très évocatrice sur la situation des Poilus.
Ah oui, ça m'a fasciné, cette contradiction-là, ce fossé qu'il y a de toute façon. Cet homme écrit à sa fiancée, comme beaucoup de lettres, ça a favorisé une correspondance incroyable qui se chiffre en millions de lettres, mais avec une espèce d'impossibilité à expliquer aux autres ce que c'est, ce mélange absolument incroyable d'ennui, d'où le cafard, et de brutalité monstrueuse, enfin de charniers. C'est les champs de bataille sont des charniers. Et c'est curieux que vous citiez une lettre de 1915. C'est curieux comme je suis tombé par hasard sur une photographie de 1915 avec ces soldats qui pique-niquent sur deux cercueils.
La fin du premier acte, dit le Poilu qu'on vient d'entendre, comme s'il avait conscience.
Il avait conscience, voilà. Comme ce film de Gal Ladevèze, il est tourné à Bois-le-Prêtre. Je réussis à le dater du mois d'avril ou de mai 1915. Mais ça nous fait toucher du doigt quelque chose qui est que cette année 1915, des 4 années de la guerre, a été l'année la plus terrible, alors que dans le souvenir collectif, ce n'est pas nécessairement la plus terrible. Mais la plus terrible, pourquoi ? Parce que on commence à s'enterrer, on commence la guerre de position, mais on est encore dans une guerre de mouvement, et surtout, il faut attendre l'été, grosso modo, pour que les soldats français, les troupes françaises, soient pourvues de casques. Les Allemands, ils doivent attendre 1916 pour avoir des casques qui ne sont plus des casques en carton bouilli, mais en acier. Vous vous rendez compte de l'horreur?
Et puisque vous citiez Jean Paulhan tout à l'heure, cet ancien directeur de la Nouvelle Revue française, il disait sur cette incapacité de dire les choses, cet indicible, il parlait lui de maladie du langage. Mais j'ai une dernière question à vous soumettre, Jérôme Prieur, qui concerne à la fois votre livre La moustache du soldat inconnu et votre film Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler. C'est celle évidemment de la disparition des témoins, puisque le dernier poilu est mort, les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale évidemment sont aussi en train de disparaître, et ça rend ce témoignage d'autant plus important, cette collecte et cette mise en cohérence des témoignages d'autant plus important selon vous ?
Ah oui, bien sûr que ça rend la collecte beaucoup plus vitale, et en même temps ça nous rend à nous la possibilité de parler, de témoigner, parce qu'on est aussi des relais. Vous évoquiez les grands-pères, on peut évoquer des figures familiales moins lointaines. Je crois que ça nous autorise à parler, ce dont la présence des témoins nous privait.
Merci beaucoup Jérôme Prieur. La moustache du soldat inconnu, c'est donc déjà publié au Seuil. Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, les deux épisodes seront diffusés le 15 janvier sur Arte. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, j'avais l'impression. En tout cas, on peut retrouver les DVD publiés par Arte Édition. Il me reste à remercier toute l'équipe, Oriane Delacroix, Henri Leblanc, Maya Neshkovic, Jean-Christophe Brianchon, Chouchane Djergaïan, Laura Dutèche-Pérez, Jeanne Copé et Jordan Joseph, l'équipe de La Grande Table. Réalisation aujourd'hui, Alexandra Candilonguet, à la prise de son, Jordan Fuentes. Dans quelques instants, les pieds sur terre. Excellent réveillon à tous.